Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Il s'appelait Samuel Paty, 47 ans. Il a été égorgé, décapité, vendredi, professeur d'histoire, géographie dans les Yvelines, en France, tout près de Paris. Il a été égorgé, décapité. Pourquoi? Pour des idées. Parce qu'il a voulu défendre la liberté d'expression, enseigner à ses étudiants, ses élèves, ce que c'était la liberté de penser, la liberté de rire, la liberté d'expression. C'est une histoire absolument sordide qui s'est passée en France vendredi. Je voulais absolument en parler avec mon amie Djemila Benhabib. Djemila qui est chargée de mission au Centre d'Action Laïque Belgique, vice-présidente de la Fondation Raïf Badawi. Et surtout parce que Djemila, en 2011, a sorti un livre extrêmement important qui s'intitulait « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». Bonjour Djemila.
Bonjour.
Djemila, le titre de ton livre de 2011, « Les soldats d'Allah, l'assaut de l'Occident », c'est un titre prémonitoire pour ce qui est en train de se passer en ce moment en France?
Oui, certainement. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était non seulement de mettre en lumière, si vous voulez, toute cette violence, qui est une violence organisée, mais c'était aussi de mettre le doigt sur toute cette stratégie en amont qui est celle de l'entrisme et qui touche en fait des sphères névralgiques de notre société, c'est-à-dire des partis politiques, c'est-à-dire la sphère académique, la sphère journalistique, le pouvoir, qui sont aujourd'hui infiltrés par les islamistes un peu partout dans le monde.
En France, je le rappelais ce matin avec Pierre Nantel, il y a eu depuis 2012 263 victimes d'attentats terroristes islamistes. Il y a eu 18 attentats. Il y a eu évidemment Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice. Et il y a beaucoup de gens, quand c'est arrivé vendredi, ce professeur égorgé, qui ont dit « mais ça fait 20 ans qu'on vous dit que ça arrive, ces choses-là. Ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. » Comment on explique, Djemila, qu'il y a encore des gens qui nient la montée de l'islamisme en France?
Oula, comment expliquer ce déni? Je ne sais pas très bien. Peut-être que ces gens-là ne veulent pas tout simplement regarder la réalité en face parce que la réalité est très dure et qu'ils ne sont pas en mesure de la confronter. Donc peut-être pensent-ils tout simplement qu'en ne parlant pas du problème, en ne traitant pas le problème, il va tout simplement disparaître de par lui-même. Peut-être, hein, ce n'est qu'une hypothèse. Pour ma part, je peux par ailleurs parler de tous ceux qui résistent, de tous ces enseignants que j'ai rencontrés en France et ailleurs, parce que ça fait quand même 10 ans que je sillonne la France, que je vais de ville en village pour donner des conférences, rencontrer des gens. Je vous dirais que la parole qui m'émeut le plus et la parole qui me touche le plus, c'est celle des enseignants. Parce que c'est une parole qui est d'abord forte, c'est une parole qui est authentique. Ça me touche parce que, évidemment, il y a cette fonction qui est la fonction de transmettre, mais il y a aussi cette fonction de défendre les idéaux et les principes de la République. Donc, on sait que la France laïque s'est construite autour de l'école et avec l'école, et en conséquence, les enseignants ont toujours été en première ligne de la confrontation contre l'obscurantisme. Alors hier, évidemment, c'était l'obscurantisme chrétien, catholique, et aujourd'hui, c'est l'obscurantisme musulman.
Alors, il y a Kamel Daoud, cet écrivain algérien qui est chroniqueur aussi dans différents magazines en France. Kamel Daoud qui a donné une entrevue en France dans les heures qui ont suivi l'attentat terroriste islamiste de vendredi. Il a dit, et je cite, « Il ne faut pas négocier avec l'islamisme, il doit être combattu, il faut être ferme sur la laïcité. Si vous cédez, nous sommes foutus, vos compromissions sont nos défaites. » comment on combat l'islamisme? Comment on fait pour combattre cet islam politique?
Ben, on le combat en fait de différentes façons, j'ai envie de dire sur tous les fronts. Certes, il y a évidemment ce phénomène de la violence qui saute aux yeux, je pense, aujourd'hui de tout le monde. Donc, certes, il y a une guerre militaire qu'il faut accepter de mener contre l'islam politique, mais il y a surtout aussi une bataille idéologique. Il y a surtout et aussi une bataille politique. Il y a surtout et aussi une bataille culturelle. Et ce qui fait en réalité la force de la civilisation, ce sont les idées, ce sont les principes. Il ne faut pas se tromper, en fait, Samuel Paty, il a été décapité, pas seulement parce qu'il a incarné la République, pas seulement parce qu'il a osé montrer ses caricatures, mais il a été décapité parce qu'il a porté une parole qui est concurrentielle à la parole des islamistes, parce que la seule parole qui mérite d'être véhiculée en fonction de la doctrine islamiste, c'est la parole révélée. La seule discipline qui mérite l'attention des gens, c'est la parole divine, c'est-à-dire c'est la parole du Coran. Et donc, par conséquent, toutes les autres paroles sont absolument insupportables à l'endroit des islamistes. Donc, combattre l'islam politique, c'est précisément véhiculer c'est véhiculer ses idées, c'est véhiculer la raison, c'est armer les gens, les armer intellectuellement, c'est véhiculer la culture, c'est véhiculer l'art, c'est véhiculer la poésie, c'est véhiculer la danse, toute cette vie, toute cette sensualité de la vie, tout le plaisir que l'on peut avoir, si vous voulez, en exerçant notre mission, notre seule mission d'être humain, d'être en vie, d'exister, eh bien, aux yeux des islamistes, elle ne passe pas, elle est insupportable. Donc, continuer de vivre, continuer d'incarner cette vie, c'est absolument essentiel et c'est absolument nécessaire aujourd'hui.
Ce qui est terrible quand on apprend, parce que depuis vendredi, évidemment, on en apprend beaucoup plus sur ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Ce qui est terrible, c'est de penser qu'il y a donc dans la classe de ce professeur, Samuel Paty, il y a une jeune fille et son père a fait une vidéo en disant que ce professeur était un voyou parce qu'il avait montré des images du prophète. Et donc, il y a toute une complicité. Il y a des gens qui ont des professeurs aussi qui enseignaient avec Samuel Paty, qui ont donné son adresse, qui ont donné son numéro de téléphone. Donc, c'est terrible de se dire que cet homme-là, qui en plus s'était plaint à l'administration, à la directrice de l'école et à les gens, aux gens de l'éducation nationale, qu'il n'a pas été protégé, la société française ne l'a pas protégé. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est les gens qui ont été complices de cet assassinat.
En fait, juste pour revenir sur les faits, aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair si la fille était vraiment donc l'élève de Samuel Paty et si véritablement elle a assisté à ce cours. Donc même là-dessus, il y a un doute. Donc on ne sait pas encore très bien si véritablement c'est une élève de Samuel Paty. Cela étant, oui, c'est une élève du collège. Voyez-vous, même sur l'indignation, en tout cas, elle est totalement erronée. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que véritablement, il y a une fabrication de l'indignation. Il y a ce qu'on appelle le spectacle, il y a la théâtralisation de l'indignation qui cherche absolument, si vous voulez, à indigner, à exciter donc ceux qui sont les plus fragiles pour les pousser à passer à l'acte. Et en ce sens, c'est cela qui est insupportable, c'est cette parole qui est absolument indigne du parent d'élève, mais aussi de sa garde rapprochée, parce que ces gens-là donc ne vont jamais seuls, donc ils vont accompagner. C'est donc en compagnie d'un haut gradé, si vous voulez, de la mouvance islamiste qui s'est présenté donc au collège, et donc ils se sont plaints. Évidemment de l'enseignant en question, et je dois dire que ce qui ressort aujourd'hui dans la presse française du comportement du proviseur et ainsi de suite, c'est qu'il y a eu une forme de non-recevoir de la part du proviseur, donc qui s'est bien comporté et qui a bien expliqué que l'enseignant était dans son droit. Mais cela étant, ça n'enlève pas la grande solitude qu'a pu vivre Samuel Paty ces 10 derniers jours, parce que cette pression, cette violence, la violence des réseaux sociaux, lorsque elle est évidemment organisée pour un homme, pour un humaniste comme lui, qui était donc catalogué d'être un islamophobe, qui était catalogué d'être un raciste, pour lui c'était vraiment une terrible souffrance et une peine absolument inouïe. Donc je pense que véritablement, vis-à-vis de la fabrication de cette indignation, il faut être absolument ferme, que cette parole-là, elle n'est pas recevable, que la France n'est pas une fabrique contre les musulmans, que la France ne fabrique pas le mépris, l'humiliation, la violence contre les musulmans, que s'il y a bien un pays dans le monde qui respecte ses minorités, c'est bien la France, en raison de la laïcité, et que aucun pays musulman ne peut offrir et ne peut garantir la sécurité et la bienveillance envers ces minorités telles que le fait la France. Et je finirai par dire que ceux qui sont en cause aujourd'hui, ce ne sont pas seulement ces parents d'élèves qui ont orchestré l'indignation, ce n'est pas seulement toute cette mouvance islamiste qui a accompagné et qui a fabriqué cette indignation. Il y a aussi en toile toute cette mouvance intellectuelle qui se situe dans la gauche et qui légitime cette indignation. C'est ça aussi, et surtout qui est irrecevable, c'est la légitimation d'une parole qui est totalement d'une parole politique qui est totalement aujourd'hui véritablement remise en cause.
Oui. Alors il y a quelqu'un que vous connaissez sûrement, Yanis Roder, donc qui est membre du Conseil des sages de la laïcité. Il est professeur d'histoire-géographie lui-même dans un collège de Seine-Saint-Denis. Il a donné une entrevue à la radio française en disant « Je suis en colère ce matin, ça fait des années que nous tirons le signal d'alarme. C'était tout à fait dans l'ordre du possible à partir du moment où des gens considèrent que tous ceux qui s'opposent à leur vision du monde sont des cibles potentielles. Je ne vois pas pourquoi les enseignants qui sont en première ligne ne seraient pas un jour victimes de cela. » Et il rappelle que il y a quelques années, il y avait eu ce livre « Les territoires perdus de la République ». Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres, qui ont fait des reportages dans les journaux, dans les magazines, des reportages à la télé, à la radio, pour dire « Attention, il se passe quelque chose ». C'est terrible de penser que ça fait 10 ans, 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme et que rien ne bouge, que ça continue, qu'il y a 263 victimes du terrorisme islamiste au cours des 8 dernières années, là.
Oui, en fait, on peut évidemment faire ressortir tous les éléments que vous venez d'évoquer à juste titre, mais je pense qu'il ne faut pas donner aussi l'impression que la société a totalement abdiqué et que les gens ne résistent pas. Il y a des résistances, il y a des résistances individuelles. Ce qu'il faudrait, c'est une résistance collective organisée, voilà. C'est une réaction collective forte, parce que dites-vous bien que des Samuel Paty, je suis certaine, pour en avoir rencontré, qu'il y en a partout dans les écoles, et tant et aussi longtemps que Charlie Hebdo va continuer de paraître toutes les semaines, malgré les menaces, tant et aussi longtemps que certains nombres de personnalités et d'intellectuels vont continuer de parler, vont continuer donc de démettre leurs avis qui sont hostiles à l'égard des islamistes, Il y a une résistance, mais ce dont on aurait aujourd'hui besoin, c'est d'une résistance encore plus forte, c'est d'une résistance encore plus énergique, mais c'est surtout que la République prenne ses responsabilités et qu'elle accompagne, qu'elle assure la protection de tous ceux qui sont en première ligne. Et bien entendu, les enseignantes et les enseignants font partie du lot, mais il n'y a pas que, vous savez, aujourd'hui, on s'attaque aux enseignants, mais demain, qui sait, peut-être qu'on va s'attaquer à des médecins, et après-demain, qui sait, peut-être qu'on va s'attaquer, en fait, on s'est déjà attaqué à des chauffeurs de bus, et ainsi de suite. Donc, il n'y aura plus de catégorie professionnel qui ne sera pas ciblé par les islamistes, parce que ce qu'ils cherchent, c'est véritablement de provoquer le chaos, la fracture et de précipiter, si vous voulez, la fragmentation de la France en communauté ethnique et religieuse. Donc ce sont eux qui à chaque fois évoquent la religion, ce sont eux à chaque fois qui injectent du religieux dans le débat public. Ce n'est pas la République laïque. La République laïque, elle est respectueuse de toutes les croyances, elle est respectueuse de toutes les convictions spirituelles et philosophiques. Seulement, ce qu'on dit, c'est que à l'école doit rester le sanctuaire de la raison, de la connaissance, du savoir et de la culture. Et ce qu'on dit, c'est que la politique doit être aussi préservée des interférences religieuses, que la place du religieux, c'est à l'extérieur de la cité, c'est-à-dire dans le cœur de chacun, mais aussi dans les lieux qui sont destinés à la pratique religieuse.
Oui, et il faut quand même rappeler qu'il y a une mosquée qui a diffusé la fameuse vidéo du père qui traitait l'enseignant Samuel Paty de voyou. Ils se sont excusés, ils l'ont retiré, mais quand même, ça fait partie aussi des complices de celui qui a tué Samuel Paty. Djemila, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Djemila Benhabib, chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique, vice-présidente de la Fondation Raïf Badawi. Et allez fouiller dans votre bibliothèque, ou aller à la bibliothèque, ou aller dans une librairie, vous procurer les livres de Djemila Benhabib, malgré ce qu'en disent certains petits bien-pensants au Québec. C'est une matière à réflexion, et ça fait longtemps que Djemila, elle, l'attire, cette sonnette d'alarme. Merci beaucoup, Djemila.
Merci infiniment, Sophie. Un très, très grand plaisir, comme toujours, de vous parler. Au revoir, mes amitiés au Québec. Ciao.
Merci, Djemila. Ben, c'est comme ça que se termine l'émission. Un témoignage très important que celui de Djemila Benhabib. Je vous remercie d'avoir été là. J'aurais remercié Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la réalisation, Maud Boutet à la recherche. Et comme toujours, je serai fidèle au poste demain sur les ondes de Cube Radio. Merci.